sont les sinistres témoins. En décrivant l'iniquité de l'être humain, Paul dit notamment ceci. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Au temps de l'apôtre Paul, le moyen le plus rapide de répandre le sang était soit le char de guerre tracté par des chevaux, soit les galères romaines mues par les rames de quantité d'esclaves. Depuis lors, l'homme a considérablement évolué quant au moyen de donner la mort. Confortablement installés sur des dizaines de mètres de béton, le mal enfoui bien profondément sous des montagnes, il peut, en pressant un simple bouton, envoyer et diriger une fusée jusqu'aux extrémités de la Terre. Il suffit de quelques heures pour que de multiples bombes à tête nucléaire se mettent à tomber comme des éclairs sur diverses villes où des gens vivent, où des enfants jouent dans les rues. Avec une seule de ces bombes, l'homme peut détruire une ville comme Paris, Montréal ou New York. À partir d'un arme-vion, il peut lâcher ses engins de mort et contempler la fumée de la destruction s'élever lentement dans le ciel. Il n'entend que le sifflement des réacteurs puisqu'il est bien trop loin pour prêter l'oreille aux cris d'horreur et aux lamentations de ceux qui sont malgré tout restés en vie dans les ruines de leur cité. Dans un char d'assaut pouvant atteindre la vitesse de 100 km/h, il peut démolir de fond en comble une maison en n'utilisant qu'un seul petit obus. Une fois hissé dans un hélicoptère, l'homme peut tirer des balles mortelles sur ses semblables à la même cadence que des gouttes de pluie un jour d'orage. Au Vietnam, un pilote avait fait peindre ceci sur son hélicoptère. Tuer est notre affaire. Et les affaires sont bonnes. Si l'homme veut vraiment voir ce qu'il accomplit, il suffit de tirer à la mitrailleuse sur une foule et voir leurs entrailles se répandre par terre. Quelques secondes suffisent. Oui, les êtres humains ont vraiment fait du chemin depuis le temps de l'apôtre Paul. Ces paroles pourtant résonnent encore à nos oreilles. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À l'époque du Nouveau Testament, même le peuple de Dieu était engagé dans des guerres de destruction. Il aspirait à la paix, tout comme nous. Et le Créateur leur fit une promesse. Par la voix du prophète Isaïe, il lui parla du temps où la parole de l'Éternel viendrait de Jérusalem, et que ceux qui monteraient à la montagne de ce Dieu n'entendraient plus parler de guerre. Il leur annonça même ceci. De leurs glaives, ils forgeront des roues, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Quand le temps fut venu, Dieu envoya son Fils sur la terre pour nous enseigner les voies de la paix. Depuis, presque 2000 ans passés, des millions de gens entendent ces paroles, mais hélas, rares sont ceux qui font ce qu'il a demandé. Que dit Jésus au sujet de la guerre? Matthieu rapporte les paroles suivantes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les mots guerre, les rumeurs de guerre, ne résument-ils pas l'histoire de l'humanité? Lorsque les hommes ne se battent pas, ils sont en train de préparer une bonne petite guerre. La réaction naturelle à l'idée d'une guerre est d'avoir peur. Le souvenir des bouleversements, des destructions, des horreurs dues au conflit récent nous font, ipso facto, réagir dans un seul sens. Nous nous mettons à penser à la possibilité, sinon à la probabilité d'un conflit nucléaire qui balayerait de la surface du globe au moins un tiers de sa population. Et notre cœur s'arrête de battre durant un court instant. Il semble que notre sang se glace. Et cependant, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais comment serait-ce possible? L'idée d'une terre ravagée par une bombe, de ses souffrances indicibles et des dévastations indescriptibles nous bouleverse. Comment pourra-t-il en être autrement? La réponse à cette question brûlante se trouve essentiellement dans l'attitude à observer vis-à-vis de Dieu, du monde, des autres êtres humains. Cette attitude nous est enseignée par Jésus. La guerre n'effraie pas le chrétien, car il a pleine confiance dans la providence de Dieu. Il fait sienne les paroles du psalmiste affirmant « Dieu est pour nous un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Ensuite, l'expression « ne crains pas » est écrite à notre intention plus de 25 fois dans le Nouveau Testament. Le chrétien sait que, même dans les temps les plus difficiles, et comme le dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 8 et verset 23, « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Le disciple de Jésus a foi dans le Saint-Esprit qui le rassure par le truchement des apôtres disant « qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Ou encore, le Seigneur est mon aide, mais je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et les paroles suivantes du Fils de Dieu sont écrites dans son cœur. Ne crains pas, crois seulement. Notre Seigneur est roi des rois, et que nous dit-il? Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. La guerre n'effraie pas le chrétien, parce que son esprit, son cœur ne sont pas centrés sur les choses du monde. Dans la lettre aux Colossiens, il est bien dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ et cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Le chrétien n'est nullement lié à ce qu'il possède sur terre. Lors d'un conflit armé, nombreux sont ceux qui perdent leur vie en tentant à tout prix de protéger ou de sauver leur bien matériel. À propos de la destruction de Jérusalem, le Christ enseigne à ses apôtres à se garder de s'attacher aux possessions terrestres. Il s'exprime en ces termes. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Les chrétiens ne doivent pas être alarmés par la guerre. Ils doivent au contraire enfouir les dangers sans aucun égard pour ce qu'ils possèdent. La preuve en est qu'ils réagissent d'une manière toute différente, et qui pourrait peut-être sembler paradoxale à tout un chacun. En parlant d'eux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux les loue en ce sens. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Un principe est ici mis en pratique par les Hébreux. Ils ne craignent pas de voir leurs biens détruits ou pillés durant la guerre, car ils sont profondément convaincus que la vraie richesse ne peut leur être enlevée. Les trésors incommensurables qui les attendent sont au ciel. Un disciple de Jésus-Christ porte toute son attention sur les choses d'en haut. Et aucune frayeur ne s'empare de lui à la pensée de perdre la vie physique. Comme le dit très bien Jésus, « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Celui qui a obéi à son Seigneur est déjà mort à ce monde, en se fondant en Christ. Il possède la vie éternelle. Et il ne peut par conséquent frémir à l'idée de mourir, car sa vie est déjà cachée avec Christ en Dieu. La guerre pourrait être comparée à une immense sarabande menée par un Satan en délire. Mais le prince de ce monde ne peut exercer aucun pouvoir sur le chrétien, car, nous dit l'Apocalypse, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À l'unisson de Paul, le chrétien peut dire la tête haute. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et même l'apôtre Paul ne disait-il pas d'ailleurs aux chrétiens de la ville de Philippe, Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Alléluia, alléluia.
Au revoir. À la semaine prochaine. Même heure.